Chapitre 14. Loi et Évangile, un enseignement intemporel.
La lettre tue, mais l'Esprit donne la vie.
Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6.
L'historien anglais Ewan Cameron affirme que la réformation du XVIe siècle produisit plus de littérature, d'art et de musique que n'importe quel autre mouvement religieux de l'histoire.
Pourquoi ? Parce que pendant les années ténébreuses qui ont précédé la réforme, l'enseignement peu clair de l'Église faisait porter au cœur le lourd fardeau du péché et remplissait les âmes d'inquiétude. Mais les théologiens de la réforme, tels que Martin Luther, redécouvrirent que Dieu agit avec nous de façon à la fois catégorique et miséricordieuse, par le tonnerre de sa loi et les rayons de soleil de son évangile. Ils proclamèrent l'évangile enseigné par le Christ et les apôtres et expliqué par les pères de l'Église primitive. Ce message, plein de joie, fut accueilli et largement répandu par les hommes de lettres, les musiciens et même les peintres.
Les réformateurs n'ont pas développé une théologie nouvelle.
En distinguant clairement la loi et l'évangile, les réformateurs et les premiers chrétiens montraient qu'ils étaient conscients de la nécessité d'éviter la confusion et l'hérésie. Lorsque, par exemple, certains chrétiens d'origine juive soutinrent que le salut dépend de la loi de Moïse,
Actes 15, versets 1 à 5,
les apôtres mirent fin au débat en montrant comment Dieu agit par la loi et l'évangile.
Actes 15, versets 6 à 11.
Ils avaient compris que par la loi, Dieu convainc les hommes de leurs péchés.
Actes 15, verset 10.
Mais que par l'évangile, il les en délivre.
Actes 15, verset 11.
Cette controverse sur la loi et l'évangile ressurgit d'une façon nouvelle quand un hérétique du nom de Marcion, en l'an 160, alla trop loin dans sa réaction contre certains prédicateurs judéo-chrétiens. Il rejeta l'Ancien Testament tout entier et bien des éléments du Nouveau Testament, prétendant que puisque les deux contiennent la loi, ils avaient été écrits par un Dieu sans amour. Comme beaucoup d'autres pères de l'Église, Tertullien de Carthage, né vers 160 et mort en 225, rétablit la vérité en expliquant que le même Dieu se sert à la fois de la loi et de l'Évangile. Les deux, testaments, appartiennent à Dieu qui dit « Je fais mourir et je fais vivre, je brise et je guéris ».
Deutéronome 32, verset 39.
Jadis, nous disions que Dieu a le double pouvoir de juger et de bénir, tuant par la lettre de la loi et donnant par l'Évangile la vie par l'Esprit.
Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Tertullien écrit cela dans un traité contre Marcion. Les premiers chrétiens savaient que par la loi et l'évangile, Dieu agit différemment.
Lorsque les empereurs romains cessèrent de persécuter les chrétiens, en l'an 313, une autre controverse surgit. Beaucoup de croyants qui avaient quitté l'Église à cause des persécutions voulaient maintenant y être à nouveau admis. Cela irrita certains chrétiens d'Occident appelés les donatistes, convaincus que Dieu ne pardonnerait pas aux traîtres.
La controverse donatiste préoccupait sérieusement un laïc du nom de Tychonius, mort en 400, et le poussa à écrire le premier manuel d'interprétation biblique de la chrétienté occidentale. Cet ouvrage, intitulé « Livre de règles », contribua à mettre fin à la querelle en soulignant la différence entre la loi et l'évangile. La promesse de l'évangile est distincte de la loi, et puisque les deux sont différents, il ne faut pas les mêler. Ajouter une condition, en effet, rend la promesse de l'évangile incertaine.
Une application de la Bible qui procure une vie nouvelle.
À l'image des premiers écrivains chrétiens et de Martin Luther, nous avons nous aussi besoin de distinguer la loi et l'évangile. Le plus grand prédicateur de l'Église ancienne, Jean Chrysostome, né vers 347, mort en 407, expliquait ainsi cette importante distinction. Le pécheur est puni par la loi. Ici, dans l'Évangile, un pécheur vient et reçoit le baptême, et il vit, délivré de la mort du péché. Quand la loi s'empare d'un meurtrier, elle le tue. Quand la grâce de l'Évangile se saisit de lui, elle l'illumine et lui donne la vie.
Homélie 6, sur la deuxième lettre aux Corinthiens.
Le peintre de la Réforme, Hans Holbein le Jeune, a peint un tableau intitulé « Allégorie de l'Ancien et du Nouveau Testament ». Ce tableau montre Dieu agissant avec son peuple par la loi et l'évangile. En haut à gauche, la loi fut donnée par Moïse, et à droite, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Jean 1, verset 17.
L'arbre au centre est mort d'un côté, mais vivant de l'autre. Bien que le peintre ait opposé ces éléments pour illustrer la loi et l'évangile, les deux testaments contiennent l'une et l'autre. Au milieu du tableau, le prophète Ésaïe de l'Ancien Testament et Jean-Baptiste du Nouveau réconfortent tous les deux un pécheur inquiet en lui montrant le Christ.
Les détails de ce tableau sont les suivants.
Premier détail, Adam et Ève succombent au péché.
Genèse 2, versets 16 et 17, Genèse 3, versets 1 à 7.
Deuxième détail, la mort spirituelle et physique résulte du péché.
Genèse 3, verset 19, Romains 6, verset 23.
Troisième détail, Moïse reçoit la loi de Dieu pour enseigner aux hommes le bien et le mal.
Exode 20.
Quatrième détail, Dieu guérit les croyants de l'ancienne alliance, préfigurant la guérison apportée par le Christ.
Nombre 21, versets 5 à 9, Jean 3, versets 14 à 18.
Cinquième détail, à un pécheur convaincu par la loi de Dieu,
Romains 7, verset 25,
Ésaïe, le prophète, annonce la naissance d'un sauveur.
Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 9, verset 6 et 7, Matthieu 1, verset 18 et 25.
Sixième détail, Jean-Baptiste montre lui aussi le Christ et la promesse du pardon dans l'Évangile.
Ésaïe 40, versets 1 à 5, Marc 1, versets 2 à 8.
Septième détail, la Vierge Marie reçoit la promesse qu'elle donnera naissance au Sauveur.
Luc 1, versets 26 à 38.
Huitième détail, l'ange annonce au berger la naissance du Sauveur.
Luc 2, versets 8 à 14.
Neuvième détail, Jésus conduit ses disciples, leur enseignant à distinguer clairement la loi et l'évangile.
Marc 1, versets 14 et 15, Luc 24, versets 45 à 47.
Dixième détail, le Christ meurt sur la croix pour le pardon de vos péchés.
Luc 23, versets 33 à 49.
Onzième détail, le Christ ressuscite, vainqueur de la mort et de l'enfer.
Luc 24, versets 1 à 9, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 51 à 57.
Douzième détail, l'arbre coupant le tableau en deux illustre 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie.